Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des ulcères gastriques chez le cheval. C'était avec notre véto Aneva. Hello Aneva.
Bonjour Florie.
Ça va?
Oui, ça va et toi?
Ouais, ça va, merci. Alors, pendant le live, on a parlé de beaucoup de choses. Il a duré quasiment 2 heures, il me semble. Donc, on va essayer d'être un petit peu plus concise aujourd'hui si on y arrive et de rappeler un petit peu qu'est-ce que les ulcères, leur définition, quelles peuvent être les causes, symptômes, comment on diagnostique des ulcères gastriques et surtout comment on les traite et quelles mesures préventives on peut mettre en place pour éviter qu'ils ne reviennent. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir un petit peu déjà ce qu'on appelle ulcère gastrique chez le cheval, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avant, on parlait simplement des ulcères. Maintenant, on a plutôt un terme qui regroupe ce syndrome. Le terme anglais est Equine Gastric Ulcer Syndrome. En fait, c'est parce que ça regroupe plusieurs affections qui sont accompagnées d'érosion ou d'ulcères, pardon, qui peuvent se situer dans plusieurs zones de l'estomac. Notamment au niveau de la muqueuse squameuse, donc
ouais. Glandulaire. Ouais, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler l'anatomie de l'estomac du cheval, comment il est fait?
Oui, bien sûr, l'estomac du cheval est assez petit. On pourrait visualiser la forme d'un haricot dans notre tête. Et donc la partie courbée du haut du haricot serait plutôt la partie proximale, donc l'entrée, le cardia.
Au niveau de l'œsophage.
Voilà, au niveau de l'œsophage, qui est recouverte d'une muqueuse squameuse, donc non glandulaire.
D'accord.
Et ensuite, si on coupe le haricot, on va dire, de manière horizontale en deux, on a la partie basse, et qui est donc plutôt la partie distale. Et là, on distingue la partie glandulaire qui est recouverte d'une muqueuse glandulaire, en fait. Et c'est aussi la partie qui va donner l'ouverture sur le duodénum, donc sur l'intestin crêle.
D'accord.
Et donc la délimitation entre ces deux parties-là s'appelle la margo plicatus.
D'accord. Donc si on tire un trait, c'est entre les deux parties, c'est la margo plicatus. Ok. Et tu disais pendant le live, dans la partie au niveau de la muqueuse donc glandulaire, c'est là où se trouve le jus.
En fait, la muqueuse glandulaire sécrète de manière régulière et en continu de l'acide gastrique. Et donc, cette muqueuse, elle est en contact permanent avec cette acidité. Le pH de ça est environ de 1 à 2. Donc, c'est vrai que c'est très, très acide.
D'accord.
Et cette muqueuse, elle est donc protégée par des sécrétions, donc de la salive, de la nourriture, du bicarbonate qui est dans les jus, dans les jus que sécrète le cheval, et il y a aussi une barrière physique. Donc cette partie-là est plutôt bien protégée, entre guillemets. Par contre, la partie haute, donc la partie squameuse, ne sécrète donc pas finalement d'acide, mais elle est moins bien protégée. En fait, elle a juste une fine couche de cellules, et elle est plus ou moins toujours exposée aux éclaboussures de l'acidité, ou du jus, en fait, du jus gastrique.
De l'acide gastrique qui est produit en permanence par le cheval.
Exactement.
Ok, donc ça, je pense que c'est une info assez importante dont on reviendra peut-être dessus par la suite quand on parlera notamment de l'alimentation, parce que j'imagine qu'il y a différents types d'ulcères en fonction de la zone au niveau de laquelle ils sont localisés dans l'estomac du cheval. J'imagine que ces ulcères vont des facteurs à risque pouvant engendrer les différents types d'ulcères ne seront pas les mêmes en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent. Et du coup, les mesures préventives ne seront pas les mêmes non plus.
Oui, exactement. Il y a plusieurs facteurs de risque qui définissent finalement l'apparition des ulcères dans les différentes zones.
D'accord. Donc ça, c'est un important à noter. Ok, donc on peut parler tout simplement d'ulcères squameux pour ceux qui se trouvent en région squameuse au niveau de la muqueuse squameuse et d'ulcères glandulaires pour ceux qui se trouvent au niveau de la muqueuse glandulaire. On est d'accord?
Mm-hmm. Ok, oui, exactement.
Et le je crois qu'on n'a pas parlé du pylore parce qu'il y a des ulcères, il me semble, au niveau du pylore.
Oui, tout à fait.
Au niveau de l'anatomie.
Oui, parfaitement. C'est la même partie, c'est la même, enfin, pas exactement la même, mais finalement, c'est dans la partie non glandulaire, c'est la sortie. D'accord. Donc, ça peut être considéré comme, comme la même partie distale, en fait, de l'estomac.
D'accord. Ok, ça marche. Merci. Ok, donc du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire quelles peuvent être les causes, les facteurs à risque pour chacun des deux types d'ulcères dont on vient de parler ?
Oui, tout à fait. Alors, pour la partie concernant les ulcères en partie squameuse, donc en partie finalement proximale, il y a plusieurs choses. Il y a le facteur exercice, par exemple, par un phénomène mécanique. Les éclaboussures d'acide gastrique viennent se projeter sur la muqueuse et peuvent par conséquent abîmer cette muqueuse et l'attaquer finalement.
Parce qu'en plus, la muqueuse squameuse non glandulaire n'est pas bien protégée vis-à-vis des sécrétions acides, quoi. Donc ça attaque directement.
Oui, exactement. Ensuite, il y a aussi finalement si l'entraînement est très intense, il y a aussi une diminution du flux sanguin de l'estomac, ça rend l'estomac plus vulnérable et finalement, l'estomac est plus vulnérable, donc il est plus susceptible à être attaqué en gros par l'acide qui est projeté sur les parois.
D'accord. Et c'est projeté parce que si on imagine, si juste pour imaginer le phénomène, quand le cheval est en mouvement, en exercice, l'estomac se contracte, du coup ça.
Oui, exactement.
L'estomac. L'éclaboussure.
Oui, voilà. Et comme c'est comme un ballon qui serait rempli à moitié d'eau, en fait, quand on va le secouer, ça va éclabousser le haut du ballon finalement.
D'accord, ok. C'est
clair. Ensuite, il y a aussi le phénomène, par exemple, si le cheval est mis à jeun, eh bien, ça s'ajoute à ça. Hein. Finalement, si le cheval est à jeun et qu'il n'y a pas de petites fibres ou de nourriture pour empêcher les éclaboussures, eh bien, c'est pareil, ça va augmenter le risque d'éclaboussure contre la partie squameuse de l'estomac. D'accord. Donc, ça joue un rôle.
Parce que quand il y a des fibres, est-ce qu'on peut expliquer ça comme ça ? Quand il y a suffisamment de fibres dans l'estomac du cheval, elles vont tapisser le jus, c'est ça ?
Elles vont tapisser la paroi et elles vont empêcher le jus de trop se propager ou de sur la paroi.
D'accord. Va former un tapis protecteur. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Oui, c'est ça. Oui.
Ok.
Ensuite, il y a le côté, en tout cas, qui est très connu sur le côté, sur la partie squameuse, donc c'est la nourriture, donc la ration. Les glucides qui sont très digestibles et rapidement fermentissibles, comme les flocons, comme le son de blé, enfin le blé, comme ce qui est de l'avoine, et surtout en grande quantité, ces glucides sont fermentés en acide gras volatile et finalement, ils vont aussi contribuer à attaquer les cellules de la paroi de la muqueuse digestive. Et elles vont. La muqueuse va directement être attaquée. Donc la nourriture, en tout cas dans le cas où on parle de muqueuse squameuse ou d'ulcère dans la muqueuse squameuse, est un facteur qu'on peut gérer et qui fait énormément.
D'accord. Donc, quand on parle alimentation pour la gestion des ulcères gastriques, j'imagine que ça aura quand même un impact aussi sur les ulcères en région glandulaire, mais c'est surtout pour les ulcères en région squameuse.
Oui. Alors là, du coup, en effet, tu évoques les ulcères en partie glandulaire, donc en partie distale. Là, les facteurs de risque sont un petit peu différents. Bien sûr que je pense finalement qu'une nourriture pas trop riche en glucides, pas trop fermenticide, etc., y contribue, mais la littérature ne l'a pas forcément identifié en tant que tel. Donc, il y a d'autres facteurs, par contre, qui ont été identifiés, tels que l'environnement, c'est-à-dire les conditions de vie du cheval, le stress, l'entraînement, un cheval qui est trop travaillé, qui n'a pas suffisamment de jours de repos, l'utilisation d'anti-inflammatoires. Par exemple, on sait que ça a un impact direct sur cette partie de l'estomac. Aussi, par exemple, une baisse d'immunité, ce qui est quand même directement lié au stress. Mais ces facteurs-là sont vraiment des facteurs de risque pour la partie glandulaire, enfin la partie distale, donc la partie glandulaire. Ouais.
Une baisse d'immunité, qu'elle soit liée au stress ou pas liée au stress, elle peut être là pour différentes raisons, pourra avoir
tout
un
à fait.
D'accord. D'accord. Mais le stress a aussi un impact sur les ulcères en région squameuse?
Oui, tout à fait, oui. Mais certainement plus, de manière plus claire, en partie glandulaire, oui. Mais tout à D'accord. fait, le stress y est pour beaucoup de choses.
D'accord, ok. Est-ce que rapidement tu pourrais, à moins que tu aies d'autres choses là, très importantes à ajouter, mais sinon est-ce que rapidement tu pourrais nous rappeler les symptômes, les principaux symptômes qui pourraient révéler la présence d'ulcères gastriques?
Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que pas tous les chevaux sont symptomatiques et parfois, on n'est même pas capable finalement de distinguer ou d'apercevoir des symptômes. Hein. Il faut bien tenir compte de ça. Maintenant, on sait que chez les chevaux de sport, la prévalence est assez élevée, enfin, de 90 à 95% chez les chevaux athlètes, pour les ulcères en partie squameuses. Un petit peu moins pour les ulcères en partie glandulaire, on va parler entre 35 et 72%. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même prévalence. Donc, les symptômes, finalement, sans forcément pouvoir distinguer s'il s'agit d'ulcères gastriques en partie squameuse ou en partie glandulaire, sont plus ou moins une baisse d'appétit, une moins bonne consommation des rations de concentré, de la contre-performance, un changement de comportement, des coliques, un poil terne parfois, mais pas toujours, des bâillements.
Terne piqué aussi, ce qu'on peut dire.
Comment ?
Terne piqué aussi,
le poil. Oui, voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Un état général pas satisfaisant. Parfois, les propriétaires ou les entraîneurs ou cavaliers décrivent une douleur quand les chevaux sont sanglés ou attelés. Parfois, les chevaux boivent moins bien aussi. C'est des signes qui sont tout à fait, à peu près, comment dire, pas très spécifiques, en fait. Donc, il faut bien observer son cheval pour pouvoir les distinguer.
Quand tu dis pas très spécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des signes qui correspondent à une autre pathologie que des ulcères gastriques, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Une baisse d'appétit, ça peut tout à fait être autre chose. Des contre-performances, ça peut tout à fait être lié, par exemple... un problème pulmonaire, enfin il y a
plein, ouais,
il y a
ouais, pas, ouais. C'est pas parce qu'on observe ces signes que ce sont des ulcères gastriques.
Oui, tout okay. à fait. Oui.
Tu parlais des bâillements, c'est spécifiquement autour des repas ou
c'est en continu en fait. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est décrit en continu. Ça peut être un signe qui alerte le propriétaire ou le détenteur et ça n'arrive pas qu'autour des repas, non, tout à fait.
D'accord, ok. Et des coliques aussi, des signes de coliques ?
Oui, parfois le cheval se regarde le flanc, et il a peut-être des pseudo-coliques, c'est-à-dire pas des coliques très violentes, très douloureuses, mais en tout cas suffisamment pour être gêné ou pour prendre une posture. M'est arrivé de voir des chevaux qui se mettaient aussi en posture, comment dire, pour s'étirer, en fait, avec les postérieurs et les antérieurs en avant, écartés, comme s'ils voulaient vraiment s'étirer.
Ouais.
Donc ça peut être ce genre de...
Comme quand ils vont uriner, par exemple, un petit peu.
Oui, voilà, un petit peu comme ça. Oui, tout à fait. Okay.
D'accord. Ça marche. Donc, des signes qui peuvent être assez variables, qui ne sont pas forcément spécifiques. Et comme tu l'as dit au début, il faut être bien vigilant parce qu'il y a des chevaux qui peuvent être asymptomatiques. Et du coup, c'est assez difficile à détecter, en fait, comme pathologie.
Oui, tout à fait, oui. C'est pas toujours simple, mais comme on sait que la prévalence est assez élevée chez les chevaux athlètes, en tout cas si on en a un, on peut toujours penser dans cette direction, étant donné que beaucoup de chevaux sont touchés.
D'accord. Ce que tu disais aussi pendant le live, des chevaux, un cheval de loisir ou un qui ne fait rien ou pas forcément grand-chose, qui aurait toutes les meilleures conditions qu'on puisse lui apporter, qui vit auprès avec des congénères, dans un environnement le plus calme possible et apaisant pour lui, peut aussi avoir des ulcères gastriques.
Oui, ces chevaux-là aussi peuvent en avoir. La preuve, c'est des choses qui nous sont remontées parfois de nos clients ou en tout cas qu'on a rencontrées en clientèle. C'est vrai que ce n'est pas toujours très fréquent d'aller faire un diagnostic par gastroscopie sur des chevaux de loisir, mais oui, parfaitement. Et c'est décrit aussi dans la littérature que les chevaux de loisir ou les chevaux qui ne sortent jamais de chez eux peuvent tout à fait être touchés par des ulcères gastriques.
Ouais. Quand tu dis qu'ils ne sortent jamais de chez eux, c'est qu'ils ne sont pas soumis à un stress lié au transport ou à aller sur une
Exactement.
compétition, un événement ou autre, quoi.
Oui, et
Okay.
que les conditions de vie sont stables en fait chez eux.
Ouais, c'est ça. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Donc du coup, des symptômes qui peuvent être variables d'un individu à l'autre, non spécifiques comme tu l'as dit, donc pas nécessairement révélateurs d'ulcères gastriques, et aussi des chevaux qui peuvent être asymptomatiques. Tout ça fait que cette pathologie est assez difficile à diagnostiquer, à détecter. J'imagine comment on fait pour diagnostiquer vraiment, confirmer ou non le diagnostic et la présence d'ulcères gastriques.
Eh bien, en fait, le seul moyen d'en être sûr et aussi de distinguer à quel endroit se trouvent les ulcères sont finalement la gastroscopie. Donc, on vient introduire un long scope, hein, une espèce de tube avec une petite caméra tout au bout, un tuyau quoi, qui fait environ 3 mètres de long, qui est relié à une caméra avec un écran. Et ensuite, on va pouvoir explorer l'intérieur de l'estomac. Et ainsi, on pourra définir s'il s'agit d'ulcères. En partie glandulaire ou plutôt en partie non glandulaire. Maintenant, il
D'accord.
existe depuis peu, mais c'est uniquement des tests, c'est en phase d'essai, il existe des marqueurs qui vont pouvoir nous aider à enfin, comprendre si le cheval souffre d'ulcères en partie, notamment squameuses, mais c'est des tests qui sont encore expérimentaux et qui ne sont pas encore on va dire, démocratisés. Donc pour le moment, la seule façon de bien définir le type d'ulcère et comment et où, c'est vraiment la gastroscopie.
Ok, donc quand on. Parce que parfois on nous contacte en nous disant qu'avec telle prise de sang, on a décelé la présence d'ulcère gastrique, c'est pas suffisamment fiable. C'est
Non, tout
peut-être
à
un
fait.
indicateur, parfois il peut y avoir des indicateurs, mais c'est pas fiable. Enfin,
Oui, il y a des tendances, bien sûr, mais encore une fois, ça ne permet pas comment dire, de le valider ou de le confirmer. Oui.
d'accord, ok. Donc gastroscopie.
Oui.
On parle aussi de. On peut scorer, noter les ulcères, je crois, en région squameuse selon la sévérité de l'ulcère.
Oui, tout à fait, oui. Là, on va dire que les chercheurs internationaux ont convenu d'un système de scoring en fait pour pouvoir s'entendre lorsqu'ils ont besoin d'échanger sur bah, les recherches scientifiques. Donc oui, le scoring concerne les ulcères en partie squameuses. Et théoriquement, le scoring part d'une échelle de 0 à 4 où 4 est très grave et très sévère.
D'accord, en fonction de la sévérité de la lésion.
Oui,
Mais ça, c'est vraiment pour les ulcères en région squameuse.
oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Et c'est ça quand on parle de grade 1, 2, 3, 4.
Oui,
D'accord, ok.
exactement.
À partir de là, si le diagnostic est confirmé, qu'est-ce qu'on fait?
Alors après, ça en revient bien sûr au vétérinaire traitant de décider ce qui est approprié. Mais en théorie, oui, quand il y a des ulcères qui sont plus ou moins marqués ou en tout cas gênants pour le cheval, on traite de façon médicamenteuse à l'aide de médicaments. Il y a plusieurs types de médicaments, bien sûr. On connaît tous finalement l'oméprazole qui est distribué assez souvent en première intention sur les ulcères en partie squameuse. Mais il existe aussi d'autres types de médicaments. Finalement, le principe de l'oméprazole, ça va être la suppression de la production d'acide. Et ce, pendant un certain temps, mais bon, ça c'est à définir du coup avec son vétérinaire. Et en partie glandulaire, l'oméprazole ne fait pas forcément, comment dire, n'a pas forcément la même efficacité. Donc généralement, on essaie de coupler avec un autre mécanisme en tapissant finalement. Avec la muqueuse grâce à d'autres médicaments. Donc après, on peut aussi combiner ces médicaments-là avec des antiacides, pardon, mais ça demande une administration assez fréquente parce que ça ne marche que quelques heures, en fait.
Ok. Donc, mais là, l'idée générale va être de limiter l'impact des négatifs des sécrétions acides de l'estomac du cheval, en gros.
Oui, en gros, c'est ça. Oui. Pour la partie en partie glandulaire, finalement, Ce qu'on utilise souvent, par exemple, c'est le sucralfate, et c'est un agent qui réagit finalement avec l'acide de l'estomac, qui forme un espèce de complexe pâteux, qui va ensuite se lier avec les exsudats de protéines, enfin, qui sont présents sur les ulcères, ça va se coller dessus. Et ça va former en effet une espèce de petite barrière, mais il faut les administrer vraiment toutes les 6 à 8 heures. Donc pour la partie glandulaire, voilà, ça demande une administration plus fréquente. Alors que l'oméprazole, normalement, c'est un petit peu moins intensif. Mais c'est vrai
Mais
que
ça,
ça,
c'est pour la région squameuse plutôt,
ça c'est
l'oméprazole.
plutôt, ouais, plutôt pour la région squameuse. Ouais.
Parce qu'on ne l'a peut-être pas trop dit au début, mais l'une des particularités de l'estomac du cheval, c'est que les sécrétions acides sont vraiment permanentes, contrairement à nous, par exemple, où on va sécréter de l'acide gastrique après les repas pour la digestion. Le cheval, c'est tout le temps.
Tout à fait, oui, c'est tout le temps. Donc il va falloir en effet altérer comment dire, ce processus.
Ça marche. Donc après enfin après, pendant, pour accompagner le traitement et par la suite, quelles mesures préventives doivent être adoptées?
Alors, pour accompagner finalement le traitement et aussi de les prévenir. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Si on regarde la partie finalement où la nourriture a un impact, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, il faut s'assurer de distribuer un fourrage de qualité correcte et en bonne quantité, parce que on va éviter le jeûne en fait de cette façon. Donc on va, comme on disait tout à l'heure, faire en sorte que l'estomac soit toujours rempli et que le cheval ait toujours de quoi tamponner son acide gastrique. Et donc on va lui proposer ce foin dans un filet de préférence ou un hay bar de manière à ce qu'il en ait toujours. Surtout si le cheval est un petit peu obèse ou s'ils ont tendance à être en bon point. C'est intéressant de
Après,
leur dire. Pardon.
pardon, excuse-moi, je te laisse finir.
Je disais donc c'est intéressant parce que là on va pouvoir quantifier la quantité de foin et c'est là où le filet peut être un bon outil.
Après, si le cheval n'a pas tendance à l'embonpoint, lui mettre du foin à volonté, à disposition en permanence, c'est ce qui est
Bien
recommandé.
sûr,
Le
oui,
filet,
bien
c'est plus
sûr.
réguler la consommation tout au long de la journée pour faire en sorte qu'il en ait tout au long de la journée et de la nuit, mais réguler un petit peu plus la consommation pour un cheval qui aurait tendance à prendre assez facilement d'état, quoi, c'est ça?
Bien sûr. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'herbe, hein, l'herbe qui est fraîche. Ça peut être intéressant pour le cheval parce qu'elle est très digestible et elle est facilement mangeable. Le cheval a envie d'en manger. C'est vrai que souvent ces chevaux-là ont un manque d'appétit. Donc ça peut être intéressant. Seulement, à certaines périodes de l'année, ben, l'herbe, elle est très sucrée et elle peut aussi être un petit peu fermentescible. Et puis la structure de l'herbe ne peut pas être suffisante toujours parce qu'elle est très très riche en eau, donc l'herbe va très très rapidement se digérer. Donc il en faut pas mal pour pouvoir assurer le côté fibre entre guillemets. Donc ça c'est sur la partie fourrage. Si on a
Et
la
puis,
possibilité de la
tu me
faire
parles.
analyser,
Ouais, pardon, vas-y. Je te coupe tout le temps.
il n'y a pas de problème. Si on peut la faire analyser, c'est intéressant d'avoir un foin qui contient pas plus de 10 à 12% de sucre soluble sur la matière sèche. Donc, essayer de choisir un foin voilà, riche en protéines, aussi
Oh, un
parce que ça
sucre.
permet de voilà, moins de sucre et puis riche en protéines parce que ça permet comment dire, de tempérer aussi l'acide gastrique.
D'accord, ok. Donc ça c'est aussi super important, on n'a pas forcément conscience de la qualité du foin et la teneur, avoir un foin pas trop riche en sucre. On analyse d'ailleurs régulièrement des foins pour notamment pouvoir adapter finement la ration, déjà faire un petit état des lieux et adapter la ration en conséquence. Donc les fourrages pour le pouvoir tampon et également ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir l'estomac constamment avec des fibres va permettre de tapisser la muqueuse et de la protéger des sécrétions acides.
Oui, tout à fait. Et ensuite, donc, de distribuer le fourrage toujours avant de distribuer les grains, de mettre aussi le fourrage, comme je disais tout à l'heure, à disposition de manière permanente pour que les chevaux puissent tout le temps avoir l'estomac rempli. Aussi avant l'entraînement, avant les courses, pendant le transport, en fait, tout le temps. Donc ça, c'est sur
en fait.
Oui, tout le temps, tout le temps.
Okay.
Ça, c'est sur le côté fourrage.
Peut-être aussi, dernière petite chose sur les fourrages, le fait d'avoir du foin tout le temps à disposition, ça va avoir tendance à occuper le cheval et c'est un facteur d'occupation, de tranquillisation. Donc du coup, le cheval va être moins stressé.
Oui, c'est ça, ça va exactement.
Limiter le risque
naturel aussi.
Oui. Ouais. Oui, de mastiquer en permanence, c'est ça. Un cheval, tu peux me rappeler combien de temps dans la nature, en général, il passe à manger ?
Oui, c'est vrai, il passe entre 16 et 18 heures par jour à manger. Ouais. Et c'est vrai que le fait de manger et de mastiquer autant du foin, donc du fourrage toute la journée, permet aussi de produire de la salive. Et plus de la salive va être plus ou moins produite, plus ça va aider à tempérer ou à tamponner finalement l'acide gastrique. Donc c'est très important que le cheval puisse mastiquer longuement et longtemps.
Ok, super, ouais. Merci. Je te laisse continuer.
Oui, après, il y a le côté sur les... C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On sait que sur les ulcères en partie squameuses, les concentrés ont un effet. Donc, essayer de choisir des concentrés qui ne contiennent pas des sucres fermentés cibles ou en tout cas qui ne seraient pas trop ulcérogènes. Donc, de choisir un amidon plutôt lent, donc à base d'orge, éviter l'avoine. Se tenir quand on a choisi pour un aliment qui est adapté plutôt, donc formulé sur une base de fat and fiber, hein, comme on dit, sur une base de gras et de...
Fibres et matières grasses.
Fibres, voilà. c'est plutôt dans cette direction-là qu'il va falloir chercher. Et aussi ensuite se limiter une certaine quantité d'amidon par kilo de pois vifs par repas, en fait, pour pouvoir éviter tous les risques d'ulcères en fait en partie squameuse.
Ok, est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu ces quantités pour qu'on ait une idée
Oui, bien sûr. Alors, quand on veut éviter tout problème, finalement, la règle, le gold standard, c'est 1 gramme d'amidon par kilo de pois vifs par repas. Donc en gros, ça revient à 500 grammes d'amidon par 500 kilos par repas. Donc tant qu'on est en dessous de cette quantité-là, on n'a pas forcément de risque de développer des ulcères, bien qu'après ça dépend des individus. Mais théoriquement, en tout cas pour nos aliments, c'est vrai que ça correspond généralement au maximum de litres par repas, quoi, des petits repas. Et le mieux, c'est finalement de scinder aussi de scinder le plus possible les repas pour que les chevaux puissent manger, n'aient pas cette surcharge de glucides en fait à digérer dans leur estomac.
Le cheval est vraiment fait pour manger plein de petits repas tout au long de la journée. Il faut vraiment garder ça en tête.
C'est ça, exactement.
D'accord, donc ça c'est préventivement pour préventivement pour prendre toutes les précautions possibles pour un cheval qui n'aurait pas nécessairement de problème, c'est ça?
Oui, tout à fait. Okay. Lorsqu'on parle d'un cheval qui en a, donc il y a des ulcères, on va baisser de moitié. Donc, on va arriver sur plus ou moins 250 grammes d'amidon lent, précisément, sur 500 grammes de 500 kilos de pois vifs.
Ouais, donc pour un cheval de 500 kilos, voilà. Pas plus de 250 grammes d'amidon par repas, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok.
C'est ça.
Il y a un petit, j'ai l'impression de le dire un peu à chaque fois, mais on a un article avec un petit tableau récap justement pour la prévention des ulcères gastriques chez le cheval qui n'a pas de soucis, qui est en bonne santé, chez le cheval qui est sujet aux ulcères gastriques, chez le cheval qui souffre d'ulcères gastriques. Il y a un petit tableau récap avec toutes les valeurs, donc ce sera peut-être plus facile aussi à visualiser. D'accord, donc si on parle de nos aliments, lequel ou lesquels tu pourrais recommander ?
Alors oui, en effet, l'adulte spécifique énergie, qui lui est formulé sur une base d'amidon lent, donc d'orge, qui est donc moins fermentissible, et plutôt en faible quantité. Cette formulation-là est aussi associée à de la luzerne, et la particularité de la luzerne, c'est qu'elle a un fort pouvoir tampon, finalement, grâce aux protéines et au calcium. Un fort pouvoir tampon contre l'acide gastrique. Donc ça c'est le côté qui est vraiment intéressant pour cet aliment-là. Ensuite, il contient donc aussi de l'huile et des graines de lin extrudées riches en oméga 3 et des graines de soja riches en oméga 6. Et c'est vrai que l'apport de lipides, c'est ce que je disais tout à l'heure, présente, est une alternative aux glucides. Et l'intéressant, enfin, le côté intéressant, c'est que, y a une teneur élevée en acides gras essentiels. Donc, en dehors du fait qu'on apporte une source alternative énergétique, on apporte aussi finalement des très bonnes composantes, donc des acides gras essentiels.
Ok, donc ça permet d'apporter une source énergétique supplémentaire sans pour autant augmenter l'index glycémique de l'aliment et du coup de la ration.
Oui, exactement. Et puis en plus, ça tapisse un petit peu la muqueuse. Ça renforce la barrière protectrice de l'estomac contre l'acide gastrique.
D'accord, donc ça c'est donc l'aliment adulte spécifique énergie qui a été, on est d'accord, hein, formulé pour des qui convient très bien à des chevaux au travail, des chevaux athlètes.
Oui, tout à fait, oui, c'est un aliment qui est fait pour des chevaux qui travaillent, oui.
Ok, ça marche. Et puis on a aussi le céréal free dont on a parlé pendant le live, si tu peux nous en parler un petit peu là.
Oui, bien sûr. Alors le céréal free est un aliment assez intéressant, c'est un correcteur de foie. C'est-à-dire qu'il vient, comment dire, il ne contient pas de céréales, il vient juste apporter une source de protéines. Il va couvrir aussi les besoins en oligo-éléments et en vitamines, et du coup, il contient aussi des acides aminés essentiels, donc c'est ce que je dis, source protéique. Mm-hmm. Et il est formulé sur une base...
Des matières grasses aussi, il apporte, non ?
Oui, tout à fait, ouais. Des matières grasses aussi. Il est formulé sur une base de luzerne. Il contient des graines de soja extrudées, sans OGM toujours, et des graines de lin aussi extrudées. Contient aussi du tourteau de soja, donc une excellente source de protéines. Et en effet, voilà, il ne contient pas de céréales entières. Donc, convient très bien pour les chevaux qui sont, on va dire, en travail léger ou activité faible à modérée.
D'accord, pour lesquels le fourrage suffit
pour
les maintenir en état.
En bonne condition, oui.
Donc, pour simplifier, c'est un petit peu comme un CMV, un complément minéral et vitaminique, mais qui apporte en plus une bonne source de protéines et des matières grasses.
Oui, exactement.
Ok, ça marche. Côté supplément nutritionnel, qu'est-ce que tu recommandes ?
Alors oui, pour les suppléments, on a l'oméga oil, par exemple. On vient d'en parler un petit peu de l'intérêt des lipides ou en tout cas des matières grasses dans la ration. Donc l'oméga oil est un mélange d'huile de lin et de germes de maïs non OGM. Elle est issue de première pression mécanique et est une source d'acides gras essentiels et d'antioxydants naturels. Et elle permet donc d'apporter des oméga 3, 6 et 9 qui sont très bénéfiques pour la santé.
Okay. L'intérêt de qualité,
qualité humaine.
Ouais. Voilà, alimentation humaine, quoi.
Exactement, oui. Okay. Comme tu disais tout à l'heure, l'intérêt d'apporter des lipides dans la ration, c'est parce qu'elle représente une source alternative d'énergie par rapport aux glucides et permet donc d'augmenter la densité énergétique de la ration sans forcément augmenter la quantité de la ration.
Ok, donc sans forcément augmenter la quantité de la ration et l'index glycémique si la ration, la ration concentrée contient par exemple de l'amidon, quoi.
Oui, tout à fait.
Ça permet, oui. Voilà. Sans augmenter la ration de concentré, on apporte plus d'énergie en rajoutant simplement un complément comme l'oméga oil.
Oui, exactement.
Ok.
Et pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, en fait, les matières grasses tapissent la muqueuse, ça renforce du coup la barrière protectrice de la muqueuse, et si l'huile est donc riche en acides gras, comme c'est le cas de l'oméga oil, l'huile joue aussi un rôle de nutrition de la paroi, donc des membranes cellulaires de la paroi gastrique. Donc c'est vrai que c'est un double avantage, en fait.
Ok. Donc, ce complément super intéressant pour les chevaux sujets aux ulcères gastriques, aussi pour les chevaux qui ont des difficultés, c'est assez souvent lié aussi aux chevaux sujets aux ulcères, mais des difficultés pour se maintenir en état. Et en plus, il aura un joli poil.
Oui, en effet, il va briller.
Ah, voilà, c'est une petite expérience personnelle. Oui. Ça marche. En dehors de l'oméga oil, je crois, on a le care et le gastric gel. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces deux suppléments ?
Oui, bien sûr. Le gastric gel pourra venir renforcer finalement l'action de l'oméprazole temporairement. Donc c'est vrai que c'est plutôt à utiliser de manière quotidienne ou en ponctuel. L'ingrédient principal, c'est le gel d'aloe vera. L'aloe vera, finalement, contient des molécules, enfin des leptines qui arrêteraient la sécrétion d'acide de l'estomac directement en agissant sur les cellules qui les produisent. Bon, après, le mécanisme est un petit peu compliqué à expliquer en 2 minutes, mais c'est ce qui est normalement décrit. Et c'est pour ça que l'intérêt de l'utilisation de l'aloe vera est intéressante. Donc voilà, utilisation ponctuelle de l'aloe vera, très intéressante. Voilà, en période de concours,
Ok,
transport,
ouais,
tout ce qui
avant
peut
un transport,
stresser.
avant une épreuve, un entraînement, un concours, enfin, avant chaque événement qui pourrait provoquer un stress chez le cheval ou une mise en activité, on peut administrer une seringue de gastrique gel. C'est quoi, à peu près 1 heure avant, c'est ça?
Oui, exactement, oui.
Okay. Pour tapisser la muqueuse, faire comme un pansement gastrique, quoi.
Oui.
Ok, donc ça c'est pour le gastrique gel, l'utilisation plutôt ponctuelle. Et le cœur, alors, tu l'utilises comment?
Alors, le care est plutôt destiné à une utilisation en cure, en plus longue durée. Donc, c'est un supplément qu'on va pouvoir donner en top feeding et puis qui va finalement contribuer à tapisser finalement la muqueuse gastrique et à tamponner l'acide gastrique.
D'accord, donc le cœur plutôt en cure sur du moyen long terme. Et
Oui, tout à
avec une
fait.
utilisation quotidienne dans la ration.
Oui.
D'accord, donc ça c'était pour les suppléments. Est-ce que très rapidement tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qu'il faut mettre en place dans les conditions de vie du cheval, dans son environnement?
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on sait que les conditions de vie concernant les ulcères dans la partie glandulaire sont importants. C'est-à-dire que essayer de créer enfin, des conditions de vie qui sont pas stressantes, donc pas stressantes, pardon. Donc ne pas changer les chevaux entre groupes, avoir un compagnon de cheval, enfin pour chaque cheval, en tout cas le cheval ne supporte pas d'être tout seul, d'avoir un contact physique entre les chevaux dans les écuries. Pareil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mettre du foin à disposition de manière permanente, faire en sorte que le cheval puisse avoir accès ou puisse grignoter de l'herbe. Toutes ces choses-là, adapter éventuellement la manière de travailler les chevaux. Donc, par exemple, en faisant du travail en intervalle avec des longs moments de pas entre les séances, nourrir du foin avant le travail. Les chevaux de sport, plutôt peut-être les travailler l'après-midi parce qu'ils ont passé plus de temps à manger leur foin l'après-midi, donc c'est plutôt idéal. Voilà, c'est toutes ces choses-là en fait qui font que les chevaux puissent être respectés le plus possible dans leur physiologie naturelle.
Ouais, respecter, coller un maximum à sa physiologie digestive et enfin voilà, respecter son, je sais pas si on peut parler de bien-être physiologique, mais et
Oui,
bien-être
voilà, oui.
mental et
C'est ça.
réunir un maximum les conditions qu'il aurait
Oui.
à l'état
À
naturel.
l'état sauvage, oui.
Ok. Et ben merci beaucoup. Je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire, mais c'est déjà les principaux points. Si est-ce que tu as quelque chose à ajouter là?
Pense qu'on a fait le tour.
Ouais, ok. Si vous aviez des questions, besoin de conseils pour adapter la ration de votre cheval ou la moindre question sur son alimentation, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Et puis ben merci beaucoup Aneva pour ta dispo, pour tous tes conseils. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et puis on vous dit à très bientôt. Il y aura plein de contenu à suivre sur les ulcères gastriques. À bientôt.
À bientôt.
Merci.